Chers auditeurs, vous écoutez César, le génie à la couronne de laurier. Dans ce troisième épisode, poursuivez César dans sa course vers le pouvoir.
Bonjour à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans cet épisode du podcast Jules César, le génie à la couronne de laurier. Je suis Louane Baudier et aujourd'hui nous allons parler de Jules César et de son règne. Comment Jules César est-il monté au pouvoir et comment son génie militaire et politique lui a été utile? En quoi a-t-il mérité de redevenir maître de Rome? Nous sommes aujourd'hui en présence de Dan, étudiant à la fac de Nantes en master mention histoire. Il est ici pour renforcer ses connaissances sur Jules César.
Bonjour Louane. Alors tout d'abord, bien que je connaisse la conquête de Rome par César, je n'en connais pas les circonstances. Pourriez-vous m'aider?
Bien sûr, mais commençons donc par le commencement. César a commencé sa conquête du pouvoir dès qu'il est rentré de la guerre des Gaules. L'on peut d'ailleurs se souvenir de la phrase qu'il a lancée avant de franchir le Rubicon. « Alea jacta est », qui signifie « le sort en est jeté ». Car à ce moment-là, il n'était en rien sûr de sa victoire sur Pompée et de sa conquête de Rome.
Mais vous parlez du fait qu'il franchisse le Rubicon comme quelque chose d'important. A-t-il une quelconque signification ?
Il est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Comme à cette époque, le fleuve formait la frontière entre la Gaule et l'Italie. Il était interdit à un général romain d'entrer en armes en Italie. Et en traversant le fleuve, César a donc déclaré la guerre à l'Italie et paradoxalement à Pompée qui dirigeait Rome et qui était en concurrence directe avec notre cher César.
Et comment cela s'est-il terminé ?
Eh bien, après être rentré à Rome, une guerre civile éclate entre les partisans des différents dirigeants, Jules César et Pompée. Elle dure ainsi de 49 à 45 avant Jésus-Christ et finit par la fuite de Pompée hors de Rome. Sa fuite se finit en Égypte, où il se fait assassiner par Ptolémée XIII Philopator, qui n'a encore que 13 ans, et qui veut obtenir les grâces de César grâce à ce geste. Après ça, César est le seul « rescapé » entre guillemets du triumvirat, sachant que Crassus est mort avant le début de la guerre civile. César s'empare ainsi donc du pouvoir.
Pardon de cette question, mais je vous ai entendu parler de triumvirat et je ne comprends pas tout. Je vois bien qu'il comporte trois choses, mais pourriez-vous un peu plus détailler, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr. Un triumvirat est l'association de trois personnes pour diriger un peuple ou un pays. C'est donc à ce moment-là l'association de Jules César, Pompée et Crassus pour diriger Rome.
Mais comme vous veniez de le dire avant, il n'a plus aucun pouvoir comme le triumvirat est détruit. Comment peut-il reprendre la tête de Rome ?
Bien que le triumvirat soit détruit, il peut faire retourner Rome au gouvernement république avec les titres qu'il a obtenus par le biais du Sénat. Étant nommé consul pour 10 ans, puis dictateur à vie, on peut observer que César a très bien joué ses cartes. En effet, ayant ces titres, il cumule les pouvoirs civils, militaires et religieux, en plus d'une immense fortune qu'il a amassée, et il peut ainsi régner seul sur Rome.
Je veux bien comprendre tout ceci, mais que va-t-il faire une fois au pouvoir, et comment le peuple va-t-il réagir ?
Très bonne question. Une fois bien installé au pouvoir, César se lance dans de grandes réformes, et ça change de nos dictateurs habituels. Il commence par améliorer la vie de son peuple de diverses façons. Il commence par offrir au peuple romain des banquets et des spectacles en très grande quantité. Il continue en augmentant la qualité de vie. Par exemple, à Rome, de nouveaux bâtiments sont bâtis ou embellis, mais il faut aussi des rénovations. En remettant le cirque à neuf, il construit un théâtre, et comme ça ne suffisait pas et qu'il veut voir autre chose, il fait creuser un gigantesque bassin pour pouvoir assister à des fameuses batailles navales qui sont nommées Naumachi. Donc à Rome, sans avoir à se déplacer, et donc crée, sans trop prendre la grosse tête, un forum entier à son nom. Et il en sera récompensé. Le peuple n'est pas mécontent, au contraire, il peut s'assurer donc le contrôle sans contestation des citoyens.
Mais cela a dû lui coûter cher, n'est-ce pas un problème ?
Bien non, bien sûr que non, il a une telle fortune que le coût de tout cela ne lui est pas problématique. Il est riche, et Rome aussi. Dans son élan de bonté, il prend des mesures pour les plus pauvres en commençant par réduire le coût du blé, mais aussi en distribuant des terres aux anciens guerriers. Mais étant aussi très instruit, César essaye de rendre la culture accessible à tous, en commençant par Rome. où il crée une grande bibliothèque où l'on peut suivre nos préférences, choisir des livres en latin ou en grec. Et encore une fois, c'est une réussite toujours sans problème. Le peuple est heureux et il peut régner sereinement.
Alors, il me reste une dernière question. Est-ce que les actions de César ont des répercussions même aujourd'hui ?
Ah mais bien sûr, et pas qu'un peu. Il alla jusqu'à réorganiser le calendrier romain pour en faire le calendrier julien, et c'est celui que l'on utilise encore aujourd'hui. Et oui, qui eut cru qu'il donnerait naissance à nos 365 jours et demi ? Et j'ai un exemple de sa présence encore aujourd'hui. Vous voyez le mois de juillet ? Il tire son nom de notre cher Jules César. Et oui, Iulius, juillet, il a profité de la création du calendrier pour y glisser son nom. C'est tout lui.
Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Vous m'avez bien aidé.
Avec plaisir. Voilà, chers auditeurs, nous arrivons à la fin. Ne manquez pas le prochain et dernier épisode du podcast Jules César et le génie à la couronne de l'Orient.